Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 16h à Mamoudzou, l'heure du journal. Et c'est avec vous, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour, bonjour Arthur Ponchelet. Dans l'actualité, le choc en Allemagne, il y a quelques jours des fêtes de fin d'année. Le marché de Noël de Magdebourg a été pris pour cible par un homme au volant d'une voiture.
Dernier bilan, 5 morts et 200 blessés. L'auteur, un médecin d'origine saoudienne et d'après les autorités allemandes, islamophobe. Une semaine après le passage du cyclone Chido, Mayotte attend avec impatience l'aide promise. Une manifestation de solidarité avec les victimes mahoraises va s'élancer à Marseille, à suivre dès le début du journal. Le réacteur nucléaire le plus puissant de France alimente maintenant le réseau électrique. C'est l'EPR de Flamanville. Enfin opérationnel après 17 ans de chantier. Une semaine après le passage d'un cyclone dévastateur, les habitants de Mayotte attendent encore d'être aidés. Ils s'impatientent devant l'arrivée au compte-gouttes de l'aide. En visite sur place cette semaine, Emmanuel Macron a constaté l'immensité des besoins. Il a promis le raccordement des foyers à l'eau dès ce samedi, au moins de façon partielle. Mais il a prévenu que pendant des mois, Mayotte ne vivrait pas de façon normale. Les événements de Mayotte rencontrent aussi un écho en métropole. Ainsi, Marseille et sa région ont-ils débloqué 50 000 euros pour l'archipel dévasté. Des collectes sont organisées par les habitants et une marche organisée par les Mahorais de Marseille va bientôt s'élancer. Léopold de Picot, vous êtes sur place. Les Marseillais sont-ils présents en nombre ?
Oui, alors en nombre, c'est un bien grand mot. Il y a peut-être une petite centaine de personnes pour l'instant. On sent que c'est après la pause du midi, les gens commencent à arriver tout doucement. Faut savoir que la communauté mahoraise à Marseille, c'est quand même un dixième des Marseillais. Un habitant sur dix vient des Comores ou de Mayotte. C'est la plus grosse communauté en France. Donc les Mahorais sont là principalement pour demander à être reconnus. Hein. C'est le mot qui circule dans cette manifestation, c'est on aimerait que les Français de métropole nous reconnaissent, sachent qu'on est là et qu'on débloque enfin des fonds pour Mayotte, qu'on commence à reconstruire Mayotte sur des bases plus saines, plus durables. On m'expliquait encore que par exemple à la CAF, que ce soit à la CAF, il n'y a pas les mêmes droits pour les gens de Mayotte que pour les restes des Français. Donc voilà, on demande plus d'égalité et une reconstruction durable. Le départ de la préfecture va pas tarder vers la préfecture. On part sur une marche d'à peu près 1 kilomètre, voilà.
Merci pour ces précisions. C'était Léopold de Picot en direct de Marseille. Le cyclone Chido qui a ravagé Mayotte il y a une semaine a aussi fait des victimes au Mozambique. Dernier bilan dans ce pays d'Afrique australe, 76 morts et près de 62 000 habitations détruites. En Allemagne, 5 morts et 200 blessés, certains grièvement. C'est le dernier bilan de l'attaque à la voiture d'hier soir sur le marché de Noël de Magdebourg. Parmi les derniers développements, une déclaration de la ministre allemande de l'Intérieur, venue sur place avec le chancelier Scholz ce matin. L'auteur présumé est un médecin d'origine saoudienne et selon elle, islamophobe. Vincent Souriau, bonjour.
Bonjour.
L'une des questions posées, bien sûr, c'est de savoir comment l'assaillant a pu passer outre le dispositif de sécurité mis en place sur ce marché de Noël.
Oui, c'est le cœur de l'enquête. Le suspect s'est enfoncé de plus de 400 mètres à l'intérieur du périmètre du marché de Noël, sécurisé par des blocs de béton qui sont censés prévenir toute intrusion de véhicules, voitures ou camions. Il y a donc eu une faille que les policiers allemands tentent de cerner en rassemblant des dizaines de témoignages sur les lieux du drame. Après une attaque au couteau au mois d'août à Solingen, près de Düsseldorf, le gouvernement fédéral avait bien pris des mesures, mais elles étaient centrées sur les armes blanches. Interdiction absolue de porter quelconque objet doté d'une lame dans l'espace public, festival, événements sportifs, marché ou foire de quartier, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Les autorités avaient promis une mise en place très stricte de cette décision et la tolérance zéro. Et il y a moins de 3 semaines, 7 ministres allemandes de l'Intérieur, dont vous parliez, Gilles, avaient spécifiquement appelé à la vigilance sur les marchés de Noël. Elles n'avaient pas cité de menaces précises, mais les services de sécurité allemands avaient prévenu que ces marchés de Noël restaient des cibles potentielles en raison, je cite, de leur caractère symbolique associé aux valeurs chrétiennes et comme, je cite toujours, incarnation de leur culture et du mode de vie occidental.
Merci Vincent Souriau. Après sa visite à Mayotte, Emmanuel Macron est maintenant à Djibouti. Le président s'est rendu auprès des troupes françaises à l'occasion des fêtes de fin d'année. À l'heure où la France est contrainte de retirer ses troupes dans plusieurs pays d'Afrique, Emmanuel Macron a souligné l'importance l'importance de sa présence dans la Corne de l'Afrique pour le développement de sa stratégie dans la région Indo-Pacifique. C'était lors d'une rencontre avec son homologue, le président de Djibouti. Les États-Unis annoncent la mort d'un chef du groupe État islamique en Syrie, tué lors d'une frappe américaine dans la province de Deir ez-Zor. Dans le même temps, une délégation diplomatique américaine a rencontré à Damas le nouvel homme fort du pays, Abu Mohamed al-Jolani, chef du groupe islamiste HTS. Rencontre qualifiée de positive par les nouvelles autorités syriennes. Satisfaction américaine aussi, visiblement. Abla Junaidi, bonjour.
Bonjour.
Les États-Unis ont retiré, Abla, la récompense qu'ils offraient en cas de capture de l'ancien membre d'Al-Qaïda, récompense d'un montant tout de même de 10 millions de dollars.
Oui, 10 millions de dollars pour toute information menant à l'homme qui dit avoir rompu avec le djihadisme. La délégation américaine, la première officiellement à Damas depuis 2011, était menée par Barbara Leaf, la responsable du Moyen-Orient au département d'État américain. Pour la diplomate, Abu Mohamed al-Jolani a donné des gages. Selon elle, celui qui se fait appeler maintenant Ahmed al-Sharaa a promis de veiller à ce que les groupes terroristes ne puissent pas constituer une menace en Syrie. En première ligne de la guerre contre Daesh, depuis 10 ans, il y a les combattants des forces démocratiques syriennes et ils tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui. Leur commandant, le général kurde Mazloum Abidi, estime qu'il y a un risque d'une résurgence de l'EI à cause de la menace que fait peser l'armée turque désormais sur ses hommes. Cette menace d'assaut imminent va détourner, selon lui, de la surveillance des centres de détention d'anciens combattants djihadistes qui sont sous sa supervision. Le voisin, l'Irak, n'est pas en reste. Hier, son ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein exprimait les mêmes craintes, voir l'EI reprendre du poil de la bête dans le désert entre la Syrie et l'Irak.
Abla Junaidi en direct dans ce journal. Merci à vous. Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville dans le nord-ouest de la France est maintenant opérationnel. Après 17 ans de chantier et 12 ans de retard, le groupe EDF annonce qu'il a été raccordé ce matin au réseau électrique national. Le réacteur atteindra jusqu'à l'été prochain différents paliers de puissance qui solderont la phase d'essai. EDF salue un événement historique que pour toute la filière nucléaire française. Emmanuel Macron parle quant à lui d'un grand moment qui renforce la compétitivité française ainsi et qui protège le climat. Et maintenant, cette question, les États-Unis peuvent-ils exporter au Mexique du maïs génétiquement modifié? La réponse est oui, a tranché l'instance de règlement des litiges du traité de libre-échange nord-américain. C'est donc une victoire pour Washington. Depuis le début de l'année, Mexico bloquait les importations de maïs génétiquement modifié. L'objectif était double, Justine Fontaine, protéger les variétés locales et ainsi que les droits des peuples autochtones.
Le Mexique n'a pas apporté de preuves scientifiques montrant que le maïs transgénique porte atteinte à la santé humaine, animale et végétale. C'est la conclusion sévère du panel chargé de trancher le différend entre Washington et Mexico. En vertu de l'accord de libre-échange qui lie les deux pays, le Mexique a donc 45 jours pour lever les restrictions d'importation. Le gouvernement a confirmé qu'il mettrait donc fin à un décret qui interdisait notamment d'utiliser du maïs OGM dans l'alimentation humaine, en particulier pour fabriquer des tortillas, ces galettes de maïs omniprésente au Mexique. Par cette mesure, le pays disait vouloir protéger la biodiversité locale et les droits des peuples autochtones, dont le maïs est l'aliment de base. Washington, pour sa part, salue une victoire pour les agriculteurs américains. L'enjeu était de taille, car le Mexique est leur premier client pour le maïs. 40% de leur production annuelle part chez le voisin du Sud, soit plus de 5 milliards de dollars l'an dernier. Cette année encore, la sécheresse a obligé Mexico à acheter davantage d'épis et de grains de maïs sur les marchés internationaux, principalement pour le bétail.
Justine Fontaine du service économie. En football, on joue ce week-end la 17e journée du championnat d'Italie, le Calcio. En match d'ouverture hier soir, l'AC Milan a renoué avec la victoire en s'imposant à Vérone 1-0. Mais le club lombard, distancé dans la course au titre, est loin d'avoir rassuré ses supporters. De son côté, l'Inter Milan se déplace cet après-midi à Cagliari. Un résultat de ski, l'Autrichienne Cornelia Hütter a remporté son premier Super G de la saison. C'était ce matin à Saint-Moritz en Suisse. Une course surtout marquée par le grand retour à la compétition de la championne américaine Lindsey Vonn à l'âge de 40 ans. Ovationnée par le public, Lindsey Vonn a réussi son retour en intégrant dans cette course le top 20. Enfin, en boxe, la revanche entre les deux meilleurs poids lourds au monde ce soir à Riyad, la capitale saoudienne. Tyson Fury retrouve Alexander Usyk 7 mois après la victoire de l'Ukrainien. Un combat à 190 millions de dollars pour le vainqueur et l'un des plus importants des dernières années. Il doit permettre de désigner le champion du monde dans 3 des 4 grandes fédérations de boxe. RFI bientôt 14h10 ici à Paris. Très bonne journée.